Bonjour, Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour, Andros.
Nous reprenons encore une fois cette semaine des nouvelles du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Nous allons parler pour commencer d'une session de travail que vous avez menée avec les chefs d'établissement catholiques dont les établissements sont sous tutelle diocésaine. C'était, je crois, en début de semaine. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été l'objet de cette séance de travail?
Eh bien, mardi et mercredi, en effet, nous étions à Lourdes avec les chefs d'établissement d'établissements catholiques, collèges, écoles, collèges et lycées, avec la direction diocésaine de l'enseignement catholique, donc Madame Sandrine Simon et Monsieur Grégory Ablin, son adjoint, et puis avec les 5 membres de ce qu'on appelle la tutelle diocésaine, c'est-à-dire un conseil qui assiste dans l'accompagnement des écoles qui dépendent, qui relèvent directement de la responsabilité du diocèse. Il y a des tutelles soit diocésaines, c'est le cas avec là, soit liées à des congrégations qui ont fondé ces écoles, par exemple les frères de Ploërmel ou les sœurs de Saint-Joseph de Tarbes, pour ne parler que de celles-ci. Et donc, régulièrement, je rencontre avec le conseil de la tutelle diocésaine les chefs d'établissement de la tutelle, et là c'était un séminaire de 2 jours pour réfléchir ensemble, faire le point, travailler, manifester accompagnement et soutien. Et le but, c'était, par comparaison avec les établissements qui sont sous tutelle congréganiste, c'est le terme employé, qui sont régulièrement réunis, les chefs d'établissement, avec, alors à l'échelle nationale, une congrégation est répandue, est dispersée à plusieurs établissements un peu partout en France. Et ils ont des figures qui colorent l'école, sa pédagogie, sa spiritualité, sa pastorale, souvent liées à la figure du fondateur ou de la fondatrice de la congrégation religieuse qui a ouvert l'école. C'est pas le cas pour les diocèses. Et donc, on avait réfléchi à une tutelle diocésaine pour proposer à nos établissements, ceux de notre tutelle à nous, donc, de se mettre sous la figure, sous le patronage de la Vierge Marie qui compte tellement dans notre diocèse. Et donc, c'est ce que nous avons proposé, fait hier, pas mardi, pardon. On a eu une visite accompagnée par Sœur Eugénie sur les pas de Sainte Bernadette dans les rues de Lourdes et les lieux de la ville Sainte Bernadette à Lourdes, et puis une conférence de la part d'un chapelain qui a beaucoup touché les chefs d'établissement. Et donc on a réfléchi à de quelle manière cette référence pouvait colorer, donner une espèce d'esprit de famille aux établissements de la tutelle diocésaine.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, l'idée, c'est que ces établissements qui sont sous tutelle diocésaine puissent avoir un même projet pastoral, mais aussi éducatif commun?
Exactement. Alors, la conclusion de cette session, de ce séminaire, a été en effet de décider d'élaborer un projet pastoral commun aux écoles de la tutelle diocésaine. Chaque école, ensuite, ayant son propre projet éducatif lié à son histoire, à son contexte, mais d'avoir tout de même un projet commun aux établissements de la tutelle diocésaine, marqué de la façon que l'on a souligné pendant ce séminaire.
Et pour vous, ce sera quoi la priorité à écrire dans ce projet pastoral et éducatif?
Eh bien, c'est d'abord la direction diocésaine qui va s'y atteler et qui va élaborer un brouillon de ce projet que l'on retravaillera ensuite avec les chefs d'établissement. Et j'ai les données comme consigne de d'abord s'imprégner de ma lettre pastorale qui sort dans quelques jours pour que, évidemment, le projet pastoral des établissements catholiques du diocèse s'inscrive bien dans la vision globale de la pastorale du diocèse.
Vous les sentez dans quel état d'esprit, les chefs d'établissement? On entend que ce n'est pas facile d'être chef d'un établissement catholique aujourd'hui avec tous les scandales qui ont éclaté au cours des derniers mois ou des dernières années. Aujourd'hui, ils sont dans quel état d'esprit?
Eh bien, le séminaire a fait du bien aussi, a permis de faire le tour un petit peu de toutes ces questions qui les éprouvent, parce que, évidemment, ils sont, eux, jugés pour le passé, un passé souvent ancien de certains nombre d'écoles, telle ou telle école, et d'une réputation qui est faite à l'école. Qui ne les ils ne se sentent pas directement concernés. Il y a des décennies que des mesures de protection, de prévention, de formation, de sélection des intervenants est enclenché de manière vertueuse dans beaucoup d'établissements. Quand des faits sont signalés, ils sont immédiatement traités comme il convient de les traiter désormais. Et donc, ils sont souvent blessés par le fait d'être assimilés à un passé plus ou moins lointain, mais tout de même, quoi. Bon. Donc, ce séminaire a fait aussi du bien pour pouvoir exprimer tout cela. Et je trouve d'abord des chefs d'établissement qui sont absolument déterminés à mener la lutte que mène toute l'Église dans ce domaine, dans les prises de conscience qui ont été faites désormais, et rassérénés par le nouveau secrétariat général de l'enseignement catholique, qui est vraiment en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, avec différentes instances, y compris les rectorats des académies. Et ils sentent que, entre l'année dernière et maintenant, un climat est en train de changer dans la relation avec les rectorats d'académie, avec les inspecteurs d'académie, et qui redevient un peu plus serein et collaboratif sur la pédagogie, sur l'éducation, etc., etc. Donc, j'ai senti les chefs d'établissement un peu fatigués de tout ce qui a été vécu l'année dernière, mais un peu rassérénés par un changement de climat qui semble se dessiner. Et donc, je me suis réjoui avec eux de cela, évidemment, et je les ai assurés, quant à moi, de mon soutien, de mon encouragement et de ma disponibilité pour continuer de dire et améliorer ce qui doit l'être et peut l'être pour que nos écoles rendent le service éducatif qu'elles doivent rendre et qui est un très beau service et lien entre l'Église et la société, un très beau service que l'Église veut rendre à la société.
Merci beaucoup, Monseigneur. Donc, nous guetterons de près la sortie de ce projet pastoral et éducatif pour les écoles catholiques, les établissements catholiques qui sont donc sous tutelle diocésaine dans notre diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Un autre sujet cette semaine, Monseigneur, c'est le lancement de la campagne du denier. On a l'habitude, dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, d'avoir en général fin février un lancement global pour tout le monde. En général, ça se passe à la maison diocésaine, la Maison Saint-Paul à Tarbes, et c'est une soirée, c'est le lancement de la campagne du denier. Cette année, il y a une grande nouveauté, puisque le choix a été fait par le service de l'économat et les équipes qui s'occupent du denier dans notre diocèse, de lancer cette campagne de manière décentralisée en allant dans les paroisses. Et voilà, il y a des réunions organisées dans chacune des paroisses pour lancer ce denier. Comment vous percevez cette initiative? Et puis, où on en est de la place de l'argent dans l'Église? Est-ce que c'est toujours un peu tabou malgré tout?
Oh, ça n'est pas depuis longtemps. Les bilans sont publiés, les chiffres sont communiqués. Encore récemment, lorsque j'ai communiqué à propos des décisions prises concernant la Maison Saint-Paul, dont vraiment il n'y a pas de secret. Et puis tout le monde sait bien que voilà, des moyens matériels sont nécessaires pour vivre et assurer la mission que l'on a assurée. Et donc, c'est des charges, c'est des produits, et le denier est une part très importante des ressources de l'Église, puisque, voilà, encore une fois, on sait bien que l'Église ne vit que des dons que ses fidèles lui font. Et donc, et dans ces dons-là, la part du denier est assez considérable. Et donc, c'est vrai qu'habituellement, le lancement de la campagne du denier se faisait de manière centralisée au diocèse, précédée par une petite conférence de presse avec les médias locaux. Et puis, il a été décidé d'aller, mais c'est dans la logique de la réforme en cours des paroisses et du diocèse, où on se déplace beaucoup. Je me déplace très, très régulièrement vers les nouvelles paroisses, à la rencontre des pasteurs et des fidèles laïcs qui lui sont associés dans les équipes d'animation pastorale et les conseils des affaires économiques. Et je me déplace avec l'économe diocésain et puis les trois nouveaux coordinateurs des pôles diocésains. Et donc, dans cette même logique, il a semblé cette année que c'était important que la campagne démarre paroisse par paroisse, et donc c'est l'équipe de l'économat qui se déplace dans les paroisses.
Est-ce que c'est une manière aussi de soutenir les prêtres, les curés qui sont sur place dans les territoires et qui doivent relayer cet appel aux dons, cet appel, cette campagne du denier? C'est pas toujours facile. Ils sont pas prêtres pour appeler aux dons, a priori. Donc c'est une de
Et c'est pour ça que ce n'est pas eux qui le font, les responsables de la vie matérielle de la paroisse à travers les membres du conseil économique de la paroisse. Et donc, ce sont des laïcs, trésoriers, comptables et autres fidèles qui constituent ces conseils des affaires économiques de la paroisse et qui aident le curé dans la gestion matérielle de la paroisse. Et donc, c'est vers eux que précisément vont les responsables du service de l'économat diocésain.
Un dernier mot sur ce chapitre denier. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux catholiques qui sont voilà, qui vont régulièrement à la messe, qui sont attachés à l'Église, mais qui ne donnent pas forcément de manière régulière, peut-être même qui n'ont jamais donné, qui ne se sentent pas peut-être concernés par le denier, ou bien voilà, qui ont quelques réticences. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les encourager à faire ce don?
Eh bien, de prendre conscience que, comme tout le monde, comme n'importe quelle famille, l'Église a besoin de moyens pour assurer sa mission. Ces moyens, c'est des bâtiments, c'est des personnes, des prêtres et des laïcs qui soient détachés pour porter l'activité missionnaire de l'Église. Et comme je l'ai dit au moment où on a annoncer les changements de l'animation du diocèse et notamment des services diocésains. 25 services diocésains animés par des prêtres et des laïcs qui ont progressivement disparu et qui n'ont pas été remplacés et qui ont eu pour conséquence ces disparitions d'effacer, d'estomper, de faire disparaître éventuellement telle ou telle attention pastorale de la part du diocèse. Eh bien, d'un point de vue spirituel, évangélique, missionnaire, ce n'est pas acceptable. Et donc, deux laïcs et un diacre ont été nommés, deux laïcs salariés et un diacre ont été nommés pour remettre en place ces attentions pastorales et missionnaires. Et ils ont vraiment magnifiquement démarré leur mission au mois de septembre. Et ça crée une dynamique, je le vois bien, en me déplaçant avec eux dans les paroisses, où des liens se tissent, des connexions se réétablissent pour soutenir la mission dans les paroisses. Et donc ça, c'est à encourager. Et pour ça, ben, il y a besoin de moyens. Il y a besoin de locaux. Il y a besoin, je l'ai dit, de bras. Mais tout le monde sait bien qu'il y a besoin de ressources pour vivre, tout simplement. Et encore une fois, ben, si l'Église compte aux yeux de ses fidèles, eh bien, il faut lui donner les moyens de cette vie et de sa mission. C'est aussi simple que cela, j'ai envie de dire. Et je remercie, j'en profite, si vous le permettez, pour vraiment très très sincèrement, ceux qui, en 2025, ont contribué à ce denier d'église, qui a connu une petite augmentation, qui est tout à fait appréciable compte tenu de l'évolution de la sociologie des fidèles de l'Église catholique. Et évidemment, il y a un enjeu à ce que les personnes plus anciennes qui avaient cette culture, qui avaient cette habitude, qui avaient cette conscience, eh bien, puissent être relayées par des générations plus jeunes qui viennent à l'Église, qui la sollicitent aussi beaucoup et qui doivent à leur tour prendre le relais pour permettre à l'Église de continuer de les servir, de les accompagner et d'annoncer la bonne nouvelle à d'autres.
Voilà, et si on a des questions sur le denier, sur la gestion de l'argent dans l'Église, eh bien, toutes les questions peuvent être posées à l'occasion de ces réunions de lancement de campagne décentralisée. Il y a déjà eu cette semaine le lancement à Bagnères, à Lourdes, à Maubourguet, et puis ça continue dans les autres paroisses du diocèse jusqu'à la fin du mois et début février. Donc voilà, c'est l'occasion vraiment de répondre à toutes les questions sur le
Et
denier.
toi, tu es parfaitement transparent. J'ai vraiment demandé à ce que les fidèles qui le souhaitent puissent avoir accès aux résultats, à ce qui rentre, à ce qui sort et à la réalité des chiffres, sans aucun tabou et sans voilà. Tout le monde est responsable de la vie de l'Église à tous les niveaux et donc ça participe de cela.
Merci beaucoup, Monseigneur. On termine, si vous voulez bien, cet entretien avec un mot sur le projet de loi de la fin de vie, puisque nous en avons déjà parlé dans nos interviews précédentes. Et puis, la semaine dernière, au Sénat, coup de théâtre, les sénateurs ont rejeté l'un des deux volets de ce projet de loi, le volet qui portait sur l'aide active à mourir. C'est vraiment un coup de théâtre, en tous les cas. Comment vous avez reçu cette information et ce coup de théâtre que nous ont donné à voir les sénateurs.
Eh bien, je pense que c'est une bonne nouvelle en ce sens que ça manifeste que le sujet est complexe, qu'il n'y a pas de réponse simple, avec des arguments simplistes parfois. Et donc, au moins, ça permet de prendre conscience qu'il y a une vraie question et que ce n'est pas seulement les religieux et les religions qui sont arriérés, comprennent rien à rien et empêchent des lois de progrès de passer, puisque bien évidemment, c'est pas seulement les gens mus par la foi qui disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui est très préoccupant d'un point de vue anthropologique dans ces projets de loi. Donc au moins ça aide à cette prise de conscience et j'invite vraiment, vraiment les fidèles chrétiens à regarder les choses de près et à pas être trop simpliste quoi dans l'appréciation des enjeux de ces questions qui sont absolument redoutables et derrière, eh bien, évidemment, beaucoup de drames, beaucoup de souffrances et il faut pas non plus que ceux qui sont qui tirent la sonnette d'alarme par rapport à ces projets de loi soient simplistes dans leur appréciation des personnes qui peuvent être tentées de dire que c'est une solution. Bon, voilà. Donc il faut que personne ne soit simpliste dans ces affaires-là et la réaction des sénateurs le manifeste. Et de cela, je me réjouis. Après, ben, le parcours continue. J'ai eu l'occasion d'écrire et de rencontrer une de nos deux sénatrices, d'écrire à nos quatre parlementaires du département, les deux députés, les deux sénatrices, pour voilà, alerter l'attention. Et j'ai beaucoup apprécié l'échange que j'ai eu avec une des deux sénatrices à ce sujet. Voilà, je trouve des gens sérieux et qui ont conscience que là, ils sont en train de participer à un moment. C'est pas une loi comme les autres, quoi. Voilà, ils en sont conscients et je trouve qu'il est important que l'on puisse contribuer à la réflexion à ce sujet.
Voilà, et je rappelle que le deuxième volet porte sur le développement et l'amélioration des soins palliatifs. Là aussi, c'est un sujet important. Les deux sont évidemment très liés et il faut s'informer. Il y a de quoi s'informer sur le sujet. Il ne faut pas hésiter à s'informer vraiment. C'est important et puis ça nous concerne
Voilà,
tous.
Oui, ça nous concerne tous. Et avec le service de la pastorale de la santé, justement, on a déjà commencé, hein, mais de permettre aux gens du diocèse de s'informer. Voilà, c'est pas toujours facile d'aller chercher l'information, sauf si on est très motivé ou très connecté. De notre côté, nous faisons aussi tout ce qu'on peut pour que le débat et l'information soient à la portée de tous.
Merci beaucoup, Monseigneur Mika. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Merci.
Merci, merci et très très bonne semaine à tous.